On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Bonsoir, monsieur Gottener.
Bonsoir, comment ça va bien?
Eh ben, ça va très très bien. On se tutoie dans la vie, donc voilà, c'est le concept de l'émission. On se tutoie, monsieur Richard.
Eh ben, écoute, je te suis.
Et voilà, je suis très très heureux, voilà, j'ai écrit cette petite introduction parce que ça...
C'est magnifique ce que t'as fait là.
C'est gentil, mais c'est à ton image hein, quand même. Hein.
Bah, c'est gentil.
C'est plus que gentil parce que, excuse-moi, c'est vraiment partagé, c'est toi l'homme gentil. Parce que tu ramènes ta phrase, tu ramènes ta fraise, puisque tu seras à Plougastel, ça tombe bien. Sur scène, tu fais quelque chose d'unique et on va en reparler parce qu'on parlera évidemment de ta pub avant la pub. Parce qu'il y a des pubs un peu partout et la pub c'est quand même... quelque chose que tu connais fort fort bien, mais ça commence, attends, 1960, oui monsieur, ça remonte de tout là-haut, c'est pas la peine de prendre ce sourcil interrogatif, la colo, les scouts et Jackie.
Ben oui, Jakimovic.
Mais non, le Jackie de Dorothée.
Le Jackie de Dorothée. On s'est connus, on avait 12 ans et demi.
Ouais, un truc de fou.
Oui, on s'est vu justement avec des boutons, beaucoup de boutons.
Ouais.
Vers 16 ans, ouais.
Ouais.
Non, mais Jackie, je le connais depuis. On a fait des chambrées, on a fait les zigotos. Ouais.
Dans les années 60, alors ton papa t'offre un magnétophone, t'enregistres des bruitages, ça t'amuse, tu fais des fausses pubs. En 67, bac, philo quand même, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, c'est quand même élégant. Et puis, ça va te donner le goût à la musique. Et puis, la première pause musicale, je crois que ça va te faire plaisir. Et puis après, on va parler plus amplement de toi avec un grand plaisir. Il y en a qui étaient plutôt Rolling Stones et toi, t'étais plutôt Beatles alors, non?
Carrément, oui.
Ouais, et ça t'a inspiré beaucoup ou pas?
Ah, ça a changé ma vie.
Ouais.
Ah oui, ça m'a mis l'harmonie à l'oreille. Du jour au lendemain, j'ai entendu une fois Love Me Do.
Ouais.
Et je suis parti dans les Beatles comme un dingue.
Qu'est-ce qui t'a plu sur ce Love Me Do, You Know I Love You?
Ben, c'est difficile à dire ce qui plaît dans une chanson. J'ai été accroché. C'était la première fois que j'entendais de l'harmonie dans les musiques, dans les chants. Il y avait des chœurs, ça m'a happé.
Ouais. Eh ben, on va se laisser happer et pour te faire plaisir, parce qu'on est là pour se faire plaisir sur Nostalgie, sur la route du week-end, c'est pour toi. Le petit harmonica qui commence bien en plus, hein. On l'aime, le Gottener sur Nostalgie. Bon week-end! Love Me Do, je t'ai vu tout guilleret, te gratter le crâne sur Love Me Do.
Dès que j'entends la Beatles, ça me remue les intérieurs.
Eh ben écoute, on a continué à te remuer les intérieurs. Dans les années 70, après avoir enchaîné plein de petits boulots, monsieur Richard Gottener cofonde Gatkes Productions pour vendre de la pub sonore. Et alors là, c'est parti pour la grande saga des pubs de monsieur Gottener. Et alors là, c'est parti.
L'insecticide Raid présente le complot des bestioles.
Oh, on gagne un esprit. Fais juste ce qu'il faut.
On va te promener, belle des champs.
Non mais c'est quoi ce hal la viande?
Ça serait plus maintenant.
On peut plus.
Ah non,
n'allez pas le refaire.
C'est bien dommage.
Ouais. Non mais c'était des années où c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout était possible à l'époque. Dans les pubs, ça te poussait comme ça. T'étais le dieu de la pub, excuse-moi. Hein.
Bah écoute, tu le dis, je vais pas te contredire. Hein.
Ouais.
Non mais c'est vrai qu'on pourrait se permettre, disons, des choses. Je me souviens qu'un Pierre Berville, un des grands de la pub,
ouais.
Un jour je suis revenu avec un truc, il m'avait fait un briefing en me disant tu peux y aller, vas-y à fond. Et je suis revenu avec un truc qui était assez déconnant. Il m'a dit, c'était sur, c'était Eram, je me souviens.
Mm-hmm.
Et je suis revenu, il m'a dit, non mais t'as pas compris. Je te dis qu'il faut que ça déconne.
Vas-y.
Et j'ai dit, attention.
Ouais.
Si tu veux que ça déconne, ça va déconner.
Oui.
Et je suis revenu avec un truc énorme.
Et c'était quoi la pub? Eram, je rappelle aux auditeurs qui n'ont pas la référence, c'était des chaussures.
Oui, c'est Eram, c'est des chaussures.
Ouais.
Il y avait un truc que j'aimais bien, c'était « Bonjour monsieur, je voudrais une belle tranche de foie de veau, du 42, j'ai pied un peu fort. Moi, je serais vous, j'achèterais des chaussures. C'est avec le dessus en cuir,
ouais.
Et le dessous en crêpe. Bon. » Eh ben, j'irai chez Eram, c'est à deux pas d'ici. Bon, ben, donnez-moi qu'une tranche, je vais y aller à cloche-pied.
Et ça a été pris, ça, ou pas?
Oui, ça a été pris.
Hein?
Ça a été pris.
Et puis, mais ils en ont vendu des Eram?
Ils en ont vendu plein.
Excuse-moi, il y en avait une autre, hein, vas-y.
Oh, elles sont bien, tes godasses. C'est quoi? C'est de la peau de... Ben oui, c'est de la peau de sardine. Enfin, d'où il y avait...
Ouais, du galucha ou quelque chose comme ça.
Il y avait aussi... Ah, sont bien tes godasses, on dirait des bagnoles.
Ouais.
Tu me les prêtes? Oh non, mes parents veulent pas. Enfin bon, c'était...
Ouais, ouais, c'était un petit peu parti dans tous les sens.
Ah, ouais,
mais t'étais quand même le roi de la pub. Et puis après, vient quand même le premier tube. Je parle de musique, on va pas parler de tube à essai. Et pour un essai, il est totalement transformé.
Je roulais vous dans Caniveau.
C'est devenu infinitif, ça, ou quelque chose comme ça? Non, il y avait, c'est venu d'abord de la pub ou d'abord de la musique?
C'était d'abord de la pub.
Ouais.
Le client avait comment? Enfin, ben, j'avais.
C'était infinitif, non, c'est ça?
C'était infinitif.
Des fringues?
Des fringues.
Ouais, c'est ça.
Bon, infinitif, ça. Disons, ça poussait à faire un texte à l'infinitif, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, j'ai fait ce truc-là. Ce qui représente, en fait, le premier couplet les 30 premières secondes de la chanson.
Ouais.
Et puis, pas de réponse. Le client ne donne pas signe de vie. Donc, moi, je dis à mes copains, Claude Angèle, Selma Rangier, on va faire, c'est trop bien ce truc-là, on va faire une chanson. Donc, on fait la chanson.
Oui.
On fait le disque et tout ça, c'est prêt à sortir.
Oui.
Et là, le client arrive en disant, je voudrais bien, que vous me, on va reparler de ça. Vous êtes gentil, monsieur. Mais on en a fait un disque, donc on va vous faire autre chose. Ah non, moi je veux celui-là.
Ils sont sympas dans la pub.
Ils sont sortis, la pub et le disque en même temps. Quelle promo!
Oh, la belle promo! Alors on continue, comme quoi il y a des accidents dans la vie qui sont assez extraordinaires. Et puis, comme je le disais dans mon introduction, plus que sympa, le Sampa. Là, t'as conscience que t'es un ovni dans le métier ou pas? T'arrives avec tes tenues complètement fantasques, tes mises en scène, des chorégraphies, n'en parlons pas. En plus, ce Sampa arrive de mémoire sur le maître d'école, le film de Claude Berry. Hein?
Oui, absolument.
T'as conscience que t'es un ovni ou pas?
Je sais pas, j'ai pas conscience d'être un ovni. J'ai en tous les cas... Une recherche dans ma façon de faire, d'aborder le spectacle, c'est que ça doit, si possible, être original. Si c'est pour faire comme les autres, ben c'est
des faiseurs de ce qui se fait, c'est insupportable. Suivre la tendance, toi t'as toujours été à l'inverse de tout ça. Quand on te voit sur scène clamer, narrer tes chansons, tes textes de chansons, c'est plus que de la narration parce qu'il y a une quasi-improvisation. En fait, tout doit être calculé, mais pour nous, c'est une quasi-improvisation avec ton superbe musicien sur scène. C'est effectivement quelque chose qui ne se fait pas et je pense qu'il ne s'est jamais fait dans le monde.
Non, c'est vrai.
Ouais, d'accord.
Alors, c'est loin d'être de l'improvisation parce que tout est calculé vraiment au quart de poil. On a mis quand même un petit moment à caler tout ça.
Mm-hmm.
C'est de l'horlogerie suisse, hein. C'est-à-dire
ouais.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a des. C'est un ping-pong entre lui et moi. On est vraiment très très complices. On est deux sur scène en fait, vraiment. Et ça n'arrête pas une seconde. Tac, tic, tac, un mot, une réponse musicale,
ouais, c'est ça,
un
ouais.
Bruitage, un truc. C'est assez. Et puis évidemment, le tout en mouvement. Parce que moi, j'aime bien bouger.
Bah ouais. Donc, on n'est pas statique dans la vie. Attends, je veux dire, on est comme ça. Il y a quand même des belles rencontres sur le maître d'école dans ce film, non?
Ah bah déjà, il y en a. Déjà, on peut dire que c'est Coluche qui avait quand même un peu poussé à la roue pour indiquer à Claude Berry qu'il fallait que ce soit moi qui fasse la musique.
Alors explique-moi ta rencontre avec Coluche et comment il pousse à la roue, parce que ça c'est ton personnage qui est quand même proche du sien dans le côté fantasque, déluré et surprenant, parce qu'en fait toi ce qui nous intéresse ce sont des surprises permanentes dans tes spectacles, dans tes chansons. La base de la rencontre avec Coluche, ça se passe comment?
Alors moi j'ai essayé de le rencontrer, il s'en est pas souvenu de ça. J'ai voulu le rencontrer et lui faire faire une pub. Oh, ça n'a pas fonctionné. Quelques temps après, mais très peu de temps après, c'est lui qui m'a demandé de venir à une émission de Drucker pour chanter Tout Foufou, où je me suis pointé avec une tenue, un col en vert intégral, un slip panthère.
Magnifique.
Une veste en vison rose. Enfin, j'étais avec des chaussures avec des ailes.
Ouais.
Bon, j'étais erreur de costume tout de suite.
Ouais. Alors que lui est arrivé en poule chez Pollack, hein, quand même, hein, on s'en rappelle. chez Pollack, lui, Coluche, était arrivé en poule dans une soirée.
Ah oui, mais normal, quoi.
Ouais, enfin, le truc tout à fait normal. Et donc, on continue ce petit chemin avec Coluche, et ça fait le maître d'école. Il y a dû y avoir des scènes, quand même, je dirais pas jouissives, pour pas grossir le trait, mais subtiles, quand même, non?
Bah, j'étais surtout, à partir de ce moment-là, j'étais... un jour sur deux ou sur trois, j'étais chez lui, quoi.
C'était et comment les soirées avec Coluche? C'était bah, la...
T'arrivais à l'improviste, tu sonnais à la porte, souvent c'est lui qui venait t'ouvrir, avec une bouée en canard sur la tête, un chapeau rigolo, un truc. T'as bouffé? Non. Eh ben viens, hoc, tu te mettais à table, il y avait Gérard Lanvin, il y avait, enfin bon, toute l'équipe, quoi. Et après on descendait, il y avait une espèce de grand espace avec une piscine,
ouais. Ouais,
piscine, billard, tout ça, coin télé, tout ça. Et là, déconnage et pâturage.
Et est-ce que c'est source d'inspiration pour lui, pour toi, toutes ces soirées? Parce que lui, il était dans le quotidien des gens, c'est ce qu'il a mis en avant aussi.
Alors, oui, moi je me méfiais quand même d'un truc. Je disais à chaque fois que j'avais... Parce que évidemment c'était un régal de faire rire Coluche.
Mais évidemment.
C'était quand même...
Jouissif.
Voilà. Et donc je disais, attention Michel, hein, c'est à moi. Mais t'inquiète pas, Gottener, je vais pas te la piquer ta vanne. Donc il y avait quand même un truc, il avait un dictaphone dans la poche.
Il notait tout.
Et il notait tout ce qu'il se disait, quoi. Donc voilà, c'était une source d'inspiration, surtout pour lui.
Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de lui, là, aujourd'hui, en 2025, s'il y avait une image, s'il y avait une pensée coluchienne?
Générosité, expansive. C'est un grand généreux qui avait envie qu'on l'aime. C'est pour ça qu'il était généreux. Et on l'aimait.
Il s'inspirait du quotidien, quand même, énormément.
Bah, il s'inspirait de ce qui se... De l'air du temps, quoi, de tout ce qui se disait, il laissait rien traîner.
Ouais. Vous étiez quand même une grande bande de décalqués, on est d'accord. Et là arrive le mambo du décalco. Il vient comment ce morceau? Tu te remémores de la base?
Je crois que ça vient de l'enfance. J'adorais faire ça. J'adorais faire des décalcos.
Ouais. Ah, les fameux décalcomanies.
Et les fameux décalcomanies, ouais, ouais. C'est une espèce de truc en papier, tu mets dans l'eau, d'un seul coup ça se recroqueville.
Ouais, bien sûr.
Ça s'enroule, et puis après tu fais glisser. Ben, la chanson, c'est le mode d'emploi du décalco, hein.
Eh ben écoute, on va bien sûr redécouvrir, maintenant que tu nous as donné la clé des paroles et de la chanson, ce sont des décalcomanies, ça tombe bien, ça rime avec nostalgie. Ça va, mon Richard?
Super.
T'es bien ou pas?
Top. Au top.
Au du week-end, on se tutoie avec l'irrésistible Richard Gottener.
J'adore.
Tu n'es pas sage, ce qu'on dit, de docteur qui guérit la mambo maladie du décalcomanie.
Le décalqué du décalco s'appelle Ricardo Gottenero. Ce soir, sur Nostalgie, la manie du décalco met le feu au rideau. Là, ce sont des rimes très très riches. C'est comment manier le décalco? T'avais pris un bon petit déjeuner ce matin-là quand t'as écrit ça ou pas?
Pourquoi? Mais c'est normal, non? Ouais. Tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire.
Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de recevoir Richard Gottener, qui rime avec un homme extraordinaire. On parcourt un petit peu, comme un parcours santé sur les sentiers goudronnés, la vie de Richard Gottener. Je tombe sur 1983. Alors, il y en a qui vont faire... Et pourquoi? Parce que il fait la première partie à l'Olympia de Monsieur Randy Mitchell. Oh yes. Hein? Vous l'avez pas? Eh ben on va la voir. Première partie d'Eddie Mitchell. Tu te retrouves sur scène avec Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Mort Schumann pour chanter Blue Suede Shoes.
Ah oui, alors là...
Quoi?
Là, oui, exactement. Là j'étais bien. En plus je connaissais pas les paroles, évidemment.
Oui, one for the money, two for the show. Ouais, ouais. Ouais.
Et là, moi, je chantais chaussures bleues. Ouais, yeah, chaussures bleues. Mais bon, c'était... tu te rends compte? Je veux dire, première partie d'Eddie Mitchell.
Ouais.
Déjà, c'est extraordinaire.
Qui décide? C'est lui, obligatoirement. C'est Monsieur Eddie.
C'est Eddie. C'est Eddie. Ouais. Et je venais de faire la première partie de Coluche, juste avant, quoi.
Enfin, Monsieur première partie.
Voilà. Et là, à la fin du spectacle, il y a Johnny qui monte sur scène, suivi de Mort Chemin.
Non.
Ils attaquent Blue Sweet Shoes.
Ouais.
Et il y a Eddie qui me fait... Moi, j'étais en coulisses. Et il y a Eddie qui me fait un signe, il me fait « Viens ». Et moi, je me retrouve au milieu de ces gants.
Oui.
De ces monstres. C'était extraordinaire, quoi.
Ouais, quand t'es à côté de Johnny Hallyday, y a un certain ressenti, même quand on est dans les années... c'était 1983 sur mon papier, ça doit être pas loin de la vérité.
C'est peut-être en 80... Hein, là,
d'accord, okay.
Peut-être, en 83, c'est chose à zou. C'est-à-dire que je suis revenu à l'Olympia tout seul.
Ah d'accord, ok. Et là, t'étais plus du tout en première partie.
Non, j'étais en partie, en deux parties.
Ouais, ouais. En entière partie. Ça continue avec ton Olympien, ça, je trouve ça quand même merveilleux. Et puis après, il y a le gros carton du Yuki. Il était où? Il était sur Nostalgie.
Il était où, hein, ah ouais. Le Yuki.
Il était où, le gentil Didoutou?
Ah, il connaît bien son Yuki, hein?
Oh, bah, il connaît bien son Gotenner. Il a grandi avec papa Gotenner. Où ça, hein? Où ça?
Où ça?
Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki et mamie?
Où ça, hein?
Le rythme et le phrasé des mots, tu arrives à le retrouver sur scène lorsque tu ramènes ta phrase?
Ah, ça, c'est un morceau... Enfin, c'est un passage... En principe, là, ça fait beaucoup rire, quand même.
Bah oui.
Parce que c'est une espèce de... En fait, ce sont des mini-pièces de théâtre, hein.
Oui.
Oui, oui, c'est du théâtre musical, ouais. Mais c'est du théâtre.
L'idée, elle te vient comment? Tu dis à chaque fois, j'ai voulu raconter une histoire, et les auditeurs ou les spectateurs ou les téléspectateurs n'avaient pas la quintessence du message que je voulais donner, et c'est pour ça...
Non.
Ça vient d'où, alors?
Ça vient d'abord d'une envie de... Bon, des concerts, j'en ai fait pas mal.
Je me doute.
Et j'avais envie d'un truc nouveau. Et il se trouve que pendant le confinement, tout seul derrière mon ordi à la campagne, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour amuser mes camarades? Et je dis, tiens, je vais peut-être faire un texte... J'ai donc fait un texte de mon dernier album, Saperlipopette. Et ça a vachement bien marché. Mmh. Donc j'en ai fait un deuxième, un troisième, j'en ai fait six. Et on s'est fait des millions de vues. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un spectacle avec ce truc-là, quoi.
Ouais.
Spectacle, moi je suis pas, j'ai pas envie de faire une soirée des poètes maudits avec un mec qui déclame des textes, ça ressemble à rien. Donc j'avais envie d'un truc qui bouge, où il y a de la musique, où il y a de... Et donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve un musicien pour faire ce truc-là.
Qui swing, ouais.
ça pouvait être qu'un pianiste ou un guitariste. Ça pouvait pas être un joueur de flutio ou...
Quoique un bon joueur de pipeau derrière toi, d'un seul coup, c'est pas le même limonade, tu vois.
Bonjour tristesse, ouais.
Ouais.
Et donc, je tombe sur, par hasard, pendant je vois un spectacle de Ramon Pipin,
ouais.
Et je vois ce mec qui joue du ukulélé, un ukulélé, il joue le solo de Beat It de Michael Jackson.
En ukulélé.
Sur un ukulélé fabriqué avec un bidon d'huile de bagnole.
Voilà, exactement. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Ramon Pipin dont tout parle, c'est Au bonheur des dames, c'est tout ça. Hein.
Ouais, c'est odeur,
non, c'est déjà
ça.
Quand même, qu'est-ce que un ça peu peut barré. Faire comme cri un kangourou.
Oui, oui. Oui, oui.
Ça peut pas faire cuit-cuit, ça peut pas faire miaou. C'est ça. Donc déjà, t'es entouré quand même, à la base, voilà. De la quintessence de ce qui se fait de moins dans le monde.
Et surtout que Brice,
oui.
L'âge, pour ne pas le citer...
Le musicien dont tu
le
parles.
Le musicien, c'est un fan de la première heure. C'est-à-dire
ouais.
Qu'il connaît mieux mon œuvre que moi.
Non.
Ah si.
Alors ça, c'est...
Et en plus,
oui.
De guitariste vachement balèze, il adore faire des bruitages avec sa guitare. Ça, il adore ça. Il fait un oiseau, il fait un moustique, il fait une porte qui claque, il fait des tas de trucs. Et donc, un mec qui raconte des histoires avec un mec qui fait des bruitages, bah,
c'est pas mal.
Faut publier les bancs, hein.
Ouais, et ça donne quelque chose d'extraordinaire sur scène. On en parlera, tu vas faire le Festival d'Avignon. Moi, je rêverais d'aller te voir, parce que mon agenda me le permet pas trop en ce moment, mais tu vas être un peu partout. Tu as été à l'Apollo Théâtre au mois de mars jusqu'à début avril, et puis tu seras à Tours, tu seras Saint-Jean-de-la-Ruelle. J'adore, pour faire plaisir à Monsieur Dombois le 23 mai. Saint-Jean-de-la-Ruelle. Oh là là, et puis alors ça rime avec Plougastel. Ça, allez voir cet homme qui était extraordinaire. On continue avec ta petite carrière de quelques années. J'ai envie de dire à la France entière, vive la Gaule.
Envoyez la cervoise, les blagues aux vitrioles, c'est la fête gauloise, dansons la gaudriole.
On est chez Astérix et Obélix, là, non?
Ah, on dirait, ouais.
Hein, on est d'accord.
Ça y ressemble un peu, ouais.
Quand tu dis à ton producteur, tiens, je vais sortir un album qui s'appelle Vive la Gaule, par exemple, en 2025, tu ne peux pas, et en 87, tu as le droit.
Bah oui.
Il dit quoi, Vive la Gaule?
Bah non, c'est-à-dire que je vais pas vous raconter toute l'histoire. Parce...
Non, mais promptement.
Ouais, j'ai eu quand même un petit différent avec le... Avec les ayants droit de...
Ah
oui, oui, oui.
Genre Uderzo, Goscinny, tout
non,
ça.
Non, Uderzo, je l'appelais tonton, il était très, très sympa. Uderzo, très, très sympa. Mmh. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec le vocabulaire.
Qu'il était quoi? Il était prime sautier? Il était un peu trop
non,
cru?
Il y avait des trucs un peu...
Trop tendancieux?
Je sais pas, c'était rigolo, quoi, voilà.
Oui, voilà.
Tout simplement.
Si
voilà.
C'est pas rigolo, c'est pas gauténaire.
C'était la gaudriole, et il y avait quelques formules, et enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est... je sais pas si on peut... Non, c'est... Non.
On peut, voilà. C'est le côté rigolo-ténaire.
Voilà,
d'accord.
Exactement.
Donc, alors, on le laissera dans le conteneur du rigolo-ténaire pour ne point le déborder. En revanche, tu vas quand même un petit peu dans le rigolo-ténaire, excuse-moi, en 1988, c'est assez rigolo, 1988, Marie.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il y a des femmes partout et certaines ont des lunettes. On est dans le rigolo ténère, là. Quoi?
Tu crois?
Mais non, mais pas du tout. Laissez. Et tu nous fais rire. Et tout le monde reprend tes chansons. C'est-à-dire que cette inspiration pubarde qui vient de la
oh
pub.
Oh non.
D'un seul coup, tu.
C'est le contraire, hein. C'est le contraire. Hein.
Non, mais tu la mets de côté. Et puis.
C'est le contraire. C'est pas parce que j'ai fait de la pub que j'ai fait de la chanson. C'est le contraire. C'est parce que. J'avais ce goût-là que ça a fonctionné en pub, quoi.
Ouais.
Je pense, hein.
Mais la femme à lunettes, tu nous fais rire, quoi. Tout le monde dans la cour de récréation, quand on est petit, a dit à l'époque, hein, maintenant on le lit plus, mais femme à lunettes, c'est gauténaire maintenant.
Ah ouais,
bon. Bah ouais.
Ça se dit plus maintenant, ça.
Ouais, ouais. Non.
Ah non, puis en plus...
Va-t'en le dire, tu vas voir la volée de bois vert voilà. Que tu vas prendre dans ta tête.
Moi, j'ai arrêté de siffler les nanas dans la rue, hein.
Mais tu n'as jamais commencé à les siffler. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Attention, et puis il y a l'apparition. Alors là, ça y est, c'est parti. Divine poursuite, Hygiène de l'assassin, la télé, Aziz, Elvis Aziz, ou alors encore dans la série H.
Pourquoi ils viennent pas me chercher pour faire acteur connu, moi?
Je sais pas, peut-être que si vous écrivez une chanson, un jour ils vont vous prendre dans un film.
Comme Céline Dion dans Titanic.
Voilà.
Et ouais, je vais faire ça.
Ouais, c'est ça qu'il faut faire.
Je vais aller écrire une chanson.
Voilà.
Avec Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, ouais. On a découvert, tu vois, quelques petites perles pour ton
mais
parcours.
Mais je vois, vous avez fouillé mon passé.
Ouais, on n'a pas que fouillé ça, on a fouillé ton jardin, on a creusé pour la culture du gauténaire. Là, je savais pas du tout, j'avais pas la référence, tu vois, ça m'avait échappé. Tu es dans H et tu joues ton rôle.
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais.
Enfin, presque.
Ouais.
Parce que je suis quand même un bel enfoiré dans le monde.
Ouais. Donc il n'y a pas que dans la vie en fait. Ouais, t'es un bel enfoiré, mais quand même, rencontrer à l'époque, c'est une... Il y a une vague montante qui arrive avec Jamel. Il y a une vague avec Eric et Ramzy. Aujourd'hui, ils font de la pub, des longs métrages. Ils sont réalisateurs, ils sont comédiens. Jamel, dans Mercato, fait un exercice de style extraordinaire de comédien. T'es avec la jeunesse quelque part là, à ce moment-là, non?
Bah écoute, pourvu que ça dure.
Ouais, la belle aventure qui continue encore et encore. Alors après, il y a la gougoute à son pépère. Moi, je suis...
La goutte au pépère.
Ouais, mais pour moi, c'est la gougoute à pépère, mais c'est la goutte à pépère. Oui, oui.
Mais non, parce que c'est un duo.
La goutte, oui. La goutte au pépère, qu'est-ce que
c'est? La goutte au pépère, c'est la bouteille de gnôle qu'il y a dans le buffet.
Ouais.
C'est pas ce qu'il y a dans le soutien-gorge. Hein.
Avec le petit diable à l'intérieur de la bouteille. Tu te rappelles
ouais,
en bois?
Le crapaud.
Ouais. Et la goutte au pépère.
C'est ça, c'est la petite gnôle qui décrase un peu.
Ouais.
Ouais, ouais.
Et puis alors, ça continue encore et encore sur le quotidien. Oh mon Dieu, sa perlipopette hors note. Parce que monsieur parle l'étranger, l'états-unien. Hors note, sa perlipopette.
Quoi de plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire d'une couille bien placée, d'un trou mal bien senti. Et la phrase étriquée se transmute en saillie.
Extraordinaire. Si. Tu vois le pipeau dont on parlait tout à l'heure, il est là.
Il est là.
Non mais tu vois, moi c'est ce que j'aime chez toi, c'est-à-dire que c'est tout en romantisme, c'est tout en poésie, parce que si on reprend le chant des mots de ton livre sur tous tes textes de toutes les chansons, tu t'aperçois que il y a du jeu de mots partout, et puis c'est du bien senti, sans vilain jeu de mots bien évidemment, mais il y a quand même c'est pas calculé tellement c'est beau, il y a toute la poésie dans tous tes textes.
Écoute, je ne sais pas quoi dire. C'est...
Tu vois, j'ouvre ça, tu vois, totalement par hasard sur ton texte qui s'appelle « En vous mouvant, par ricochet, quand vous dansez, j'ondule. Vous êtes la main, moi, le pendule. Vous voir venir et vous mouvoir, c'est doux. Vous voir filer m'en colle un coup. » J'ai eu la chance de te recevoir il n'y a pas si longtemps que ça sur le plateau à midi des 12 coups de midi parce que mon grand champion qu'il a, Emilien, était fan de tes chansons, de par sa mère. C'est toute génération qui peuvent s'identifier là-dedans. Il y a des choses qui sont merveilleuses. Tu as conscience que tu es un poète de ce siècle ou pas hein?
Écoute,
tu veux pas le savoir. Peut-être.
Non, c'est pas ça. C'est pas à moi de me décerner le qualificatif, quoi.
Ouais.
Je pense que Brassens c'était pareil, je crois. C'est pas à moi de dire que je suis rock, par exemple.
Ouais.
C'est pas à moi de dire que je suis beau.
Ouais.
On n'a pas le droit de se distribuer des médailles comme ça. Mmh. Et pour moi, poète, c'est une médaille quand même. Ça.
Ouais.
Donc tant mieux. Si j'étais poète, j'adorerais ça.
Ouais.
Mais voilà, c'est pas à moi de le dire, je crois pas.
Nostalgie. On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.